Bienvenue donc à cette deuxième table ronde de la Kermesse de la Presse. Merci d'être tous là, merci d'avance de votre écoute. Son titre est assez explicite, hein, je vous le relis. Journaliste en ligne, quelles sont les nouvelles tendances? Comment produire du contenu journalistique 3.0, le point sur les dernières évolutions. J'aimerais qu'on fasse, en tout cas pour commencer, quelque chose d'assez pratique, quelque chose d'ancré dans l'expérience avec mes panélistes, qu'on mette un peu les mains dans le moteur. Et ça tombe assez bien, puisque j'ai à ma gauche Magali Philippe, journaliste à la RTS, dans sa cellule des réseaux sociaux, où on l'entend une fois par semaine dans Vertigo, sur la première, où elle tient une chronique média. Et c'est à ce titre, celui d'observatrice affûtée des évolutions de nos outils, de nos productions, nos structures, qu'elle est là. Une observatrice quand même depuis la grande maison, la RTS. Une grande maison qui cherche à la fois des nouveaux publics, des publics plus jeunes, des publics délinéarisés, et puis des nouveaux moyens de les atteindre, ces nouveaux publics. À sa gauche, il y a Geoffrey Moret de Kapaw, K-A-P-A-W. Il en est cofondateur. Kapaw est une structure dont la moyenne d'âge est de 25 ans. On pourrait dire que c'est un pur player, puisqu'ils sont non seulement que sur Internet, mais ils n'ont même pas de site à eux propres. Si vous faites www.kapaw.ch, on vous dira, mais qu'est-ce que vous fichez là? Ce qu'on fait est sur Facebook et Instagram. Kapaw aura bientôt un an. On imagine qu'ils ont un public jeunes, ils cherchent eux des annonceurs et peut-être augmenter leur taille pour atteindre une dimension suisse. Enfin, à ma droite, Jérémy Sédou, lui, est journaliste à L'Aimant Bleu, télévision régionale genevoise, où il est chargé des questions numériques et aussi de la stratégie numérique de la chaîne. L'Aimant Bleu, elle, a pleinement adopté le mobile journalism, le mojo, au point qu'elle réalise même, elle a réalisé même des journaux télévisés entièrement avec un iPhone. On imagine que L'Aimant Bleu, elle, cherche aujourd'hui à élargir son public existant et gagner peut-être un public potentiel. Première question, de manière à être très concret, est-ce que chacun, brièvement, vous pouvez nous raconter une initiative, un projet, quelque chose que vous avez initié, que ce soit un nouveau format ou un nouveau contenu, et qui a fonctionné, brièvement? Qui veut commencer? Geoffrey?
Ouais, donc nous, je pense que la première innovation qu'on a fait, c'est de décider de se lancer en tant que média sans avoir quoi que ce soit à la télé, quoi que ce soit imprimé, ou même un site web. Notre innovation, c'était de se dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils s'informent principalement sur les réseaux sociaux, et que ça nous servait plus ou moins à rien de faire autre chose que d'aller simplement sur les réseaux sociaux et de construire une société de médias entièrement basée sur les canaux existants.
Ça, c'est pour l'idée, mais est-ce que ça marche?
Pour le moment, ça a l'air de marcher assez bien. On a une audience qui a grandi très vite, qui a accroché avec notre contenu. Donc on a très bien commencé. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que ça continue, parce qu'il y a beaucoup d'autres étapes que juste trouver une audience et puis des gens qui aiment le contenu qu'on fait.
Donc diffusion plus de ce côté-là, Jérémy peut-être, quelque chose que vous avez mis en œuvre et qui fonctionne?
Le truc le plus saillant qu'on a mis en œuvre, c'était sûrement, tu en as parlé en introduction, ce mobile journalisme, de réaliser des journaux entièrement à l'iPhone. Alors ça paraît un peu révolutionnaire comme ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu cette réflexion, où on a vu une journaliste qui fait à peu près 1m60, chez nous elle est très petite, mais elle a beaucoup de force. Et puis elle avait environ, je sais pas, 30 kilos de matériel sur le dos, que ce soit une grosse caméra, des trépieds, les lumières. Et en fait, on l'a vu partir de la rédaction. Elle avait son sac et puis en fait, tout son barda était beaucoup plus imposant qu'elle. Et puis on s'est dit, là, il y a juste un truc qui joue pas. Pour partir tout seul sur le terrain avec un chenille pareil, ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Eh ben, les iPhones, ils ont aujourd'hui des optiques qui permettent franchement de pouvoir concurrencer des bonnes caméras. Alors évidemment, on n'est pas sur de la qualité cinéma, même s'il y a beaucoup de films qui se font à l'iPhone. Tout ce qu'on a fait, c'est de changer un petit peu ce paradigme en se disant, mais le JRI, finalement, le vrai JRI, c'est celui qui est capable d'être à la fois mobile éditorialement et puis mobile avec son matériel. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est peut-être ces 15 dernières années avec les JRI, c'est qu'on leur a dit, bon, on t'enlève le preneur de son, on t'enlève le cadreur, mais par contre, tu gardes le même matériel et puis tu vas sur le terrain faire ton sujet. Nous, on a dit non, on va changer de matériel, on va prendre un matériel plus léger qui est destiné justement à des sujets un petit peu plus urgents, des sujets d'info qui sont faits vraiment dans la journée. Et puis on voit que ça a clairement marché parce qu'on a eu ces craintes au début en se disant, bon, les gens qui vont nous voir arriver avec un iPhone, si on arrive sur un incendie ou sur un lieu de crime, les policiers vont juste nous dire, écoutez monsieur, les badauds ne sont pas autorisés dans cette zone. Mais au final, on a eu plein de bonnes surprises. Les gens étaient plutôt curieux, les gens étaient plutôt contents même de nous voir parce qu'ils disaient, ah bah enfin, une télévision qui fait un peu des économies parce que ces télévisions, ça coûte très cher. Donc on a eu un petit peu des remarques comme ça. Et puis le côté un peu innovant, le côté un peu léger qui a finalement plu aux gens. Donc les gens ne sont pas si conservateurs que ça, le public n'est pas si conservateur. Et puis à l'antenne, franchement... À part les grands experts de l'image, je ne sais pas qui voit la différence.
Et du côté des journalistes, ils sont satisfaits de cet outil ?
Ah oui, les journalistes, ils sont ultra contents. Voilà, déjà, on enlève 30 kilos sur le dos, quoi. Maintenant, tout tient dans un sac à dos avec un iPhone qui est ultra léger. Il y a un kit qui est très compact, qui permet de faire des sujets complets sur le terrain avec un trépied qui est plus petit, avec une lumière qui est moins lourde, avec bon, le micro ça reste le même hein, parce que on n'a pas encore de technologie révolutionnaire pour faire du son en mobile.
Et puis ça fait sérieux.
Ouais, ça fait plus sérieux. En fait, le micro est plus gros que le que l'iPhone. Donc non, les journalistes sont ultra contents et puis franchement ça marche du tonnerre. On a d'abord fait une période test en 2015 à l'été. Où on s'est dit, on fait 2 mois à l'iPhone, on regarde ce que ça donne. Et ensuite, en septembre, on a laissé le choix aux journalistes de pouvoir choisir s'ils voulaient reprendre leur grosse caméra ou reprendre l'iPhone. Et très, très peu ont décidé de reprendre la caméra.
Et du côté de la RTS, un projet innovateur dont on est satisfait ?
Oui, il y en a plein. Non, mais surtout, je voulais dire, nous, on est exactement l'opposé de vous. C'est-à-dire qu'on a déjà les 3 vecteurs qui sont à la fois la force et la faiblesse, parce qu'on a de la radio, on a de la télé, on a du web. Donc on a toute la matière à pousser sur les réseaux sociaux. Sauf que ce n'est pas exactement celle-là qui fonctionne. Donc on doit se forcer à créer des nouveaux formats, à être innovant, à être créatif. Dans les choses, je pourrais vous parler de nouveaux, je pourrais vous parler des orties. Moi, je vous encourage surtout à aller regarder des formats qui ont bien fonctionné à leur échelle. Un qui s'appelle les Vertigos, en fait. C'est un format qui est né sur la première, c'est une journaliste qui a fait du mojo, qui fait une chronique radio dans Vertigo, qui a été filmée une classe en fait, et puis qui leur a lu une histoire classique, je sais pas, Madame Bovary, des choses comme ça. Elle leur a fait jouer en fait après l'histoire, elle a tout filmé avec son téléphone, elle a fait le montage toute seule, et c'est assez intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'elle s'est complètement... Elle a tout fait, elle a tout incarné, disons. Elle n'a pas eu besoin de structure extérieure, elle a inventé son format, elle a inventé son graphisme, elle a tout inventé. Et à son échelle, et à l'échelle de ce qu'on peut faire, ça a plutôt très bien fonctionné. La deuxième chose, si je peux me permettre, c'est les lives qu'on fait, qu'on essaie de faire, des lives qu'on appelle experts. C'est-à-dire qu'on permet et on met nos journalistes en avant pour qu'ils répondent à des questions d'internautes. Si tout va bien, il y en a un dans 10 minutes qui va partir depuis Washington. On croise les doigts parce que ça ne paraît pas complètement gagné là. Mais c'est vachement intéressant pour nous, au niveau du service public, en fait, de renouer avec les audiences par ce biais-là. Donc voilà les deux que je mettrai en exergue.
Quels outils est-ce que ça mobilise ? On le disait là, visiblement, le smartphone devient une espèce de plume moderne. Mais si l'image est au centre, est-ce que pouvoir utiliser un banc de montage, c'est en tout cas dans ces formats-là, savoir l'utiliser, c'est une compétence de base pour le journaliste ? Geoffrey ? Ouais,
nous on utilise un petit peu d'iPhone, mais on reste assez old school dans le côté qu'on aimerait bien avoir des belles grosses caméras quand même. Parce qu'on aime cette qualité d'image, on la recherche énormément. Pour le moment, on fait avec les moyens qu'on a, on n'a peut-être pas les mêmes moyens que vous non plus. Donc nous, on cherche vraiment de la qualité d'image, et pour le moment, l'iPhone, ça joue, mais on aimerait bien investir aussi dans des belles caméras, parce qu'on remarque que ça marche quand même.
Bah nous, on n'en veut plus de ces belles caméras.
Ah bah, on fait volontiers un échange.
Je suis pas sûr.
Pas tous en même temps.
Non, je plaisante, mais pour les réseaux sociaux, on pousse effectivement pour les smartphones, on pousse à l'autonomie. Avec un iPhone 6, vous pouvez même, tu l'as dit, Jérémy, quoi, tu peux complètement diffuser en broadcast ou enfin l'équivalent Android. Hein.
Bah après, il faut savoir l'utiliser. Quoi.
Oui, bien alors, sûr, bien sûr.
Petit mot de prudence. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'utilisation, par exemple, du mobile journalism avec de l'image qu'on foire toujours ? Est-ce qu'il y a une
le
erreur
son.
De débutant ? Magali ?
Le son.
Ouais, moi j'ai envie de dire l'image, quoi, parce que enfin, un iPhone, finalement, l'optique est ultra sensible et puis c'est beaucoup plus difficile de régler, rien que sur ceux qui sont en télévision, par exemple, la balance des blancs, le grain de l'image aussi, la luminosité, l'exposition. Tout ça, c'est des choses où quand on a une brêle, les stagiaires qui arrivent chez nous, ils ont autant de peine à faire fonctionner un iPhone qu'une caméra, quoi. Et c'est même presque plus difficile un iPhone en termes de qualité d'image.
Et puis, alors, on ne l'a pas décrit, hein, mais Kapao fait des formats, j'allais dire carrés, pas toujours carrés, parfois ils sont panoramiques, parfois ils sont carrés, mais enfin, ils ont en tout cas...
On fait du vertical aussi maintenant.
Et du vertical, mais, si je ne m'abuse, ils ont tous la propriété commune d'être très courts. J'en ai regardé un certain nombre récemment, et quand on dépassait la minute 15, je me disais, oulou, ça va bientôt se terminer.
Tu vas avoir peur, samedi, il y a un 12 ou 13 minutes qui sort samedi. On s'est surpassé.
Et que vous avez, ceci dit... diffusé à l'avance en petits bouts de manière à teaser ce qui pour vous j'imagine est une grosse production.
Exactement, nous on aime bien faire des productions ce qu'on appelle un peu modulaires où on se dit pas ok on va tourner un mini documentaire de 20 minutes, on se demande ok avec ce sujet combien de pièces de contenu est-ce qu'on peut faire à base de ce sujet et on aime bien fonctionner de cette manière là parce qu'on ne peut pas produire aussi 2000 heures de contenu par année.
Mais dans les exemples que vous avez cités, est-ce que cette nouvelle manière de soit de prendre des images, soit de monter, soit de faire du journalisme, a un impact fort sur l'éditorial ? Est-ce que ça comporte des contraintes importantes sur le résultat ?
Ça en compte, oui, certaines. On sait qu'on doit commencer avec un moment fort, une phrase forte. Sinon, quand vous êtes dans le flux d'actualité des gens, sur Facebook notamment, vous avez... même pas 3 secondes pour convaincre. Donc effectivement, ça a un impact sur de l'éditorial. Après, on peut continuer à faire du bon éditorial ou des choses qui font sens dans des formats très courts, dans des formats punchy, dans des formats qui sont pas des temps présents, c'est complémentaire. Donc ça a un certain impact. On doit aussi garder les gens. Donc tu dois... voilà, une interview qui est longue et qui n'est pas nécessairement intéressante, c'est non. C'est ce genre de critères, mais pour chaque... publication, ce sera différent.
Geoffrey, Jérémy, une réaction ?
Non, mais justement, ce que tu dis finalement sur le fond, alors effectivement, ça a un impact sur l'éditorial, mais je pense que le public a aussi un petit peu changé, les attentes du public ont changé, et du coup, c'est à nous, vecteurs d'information, finalement, de s'adapter quand même un minimum au public. On ne peut pas dire aujourd'hui, en 2017, Snapchat, c'est affligeant, Instagram, c'est affligeant. Alors peut-être, oui, alors quand on commence à se mettre des pastèques sur la tête. Mais finalement, le public, il faut aller aussi le chercher là où il se trouve, et puis il faut être capable de pouvoir lui raconter des choses intelligentes et de pouvoir lui amener l'information de manière la plus intelligente possible, mais quand même en lui parlant avec un environnement qui lui est commun. Et aujourd'hui, si on voit nous, par exemple, le public à l'antenne, la moyenne d'âge, c'est quoi ? C'est 50 ans à peu près, les gens qui nous regardent, 50, 60 ans, un peu comme la RTS. C'est des gens qui sont plutôt âgés.
C'est un peu plus vieux, ouais.
Ouais. Enfin, c'est des gens qui sont assez âgés, qui regardent l'antenne. Mais sur les réseaux sociaux, notre public, il se situe plus autour des 25 ans. Donc, au final, les gens qui sont touchés par notre information... ça reste finalement l'entier de la société, mais il faut juste pouvoir s'adresser différemment à chacun des publics sur les différents supports qu'on a pour relayer cette information.
On a parlé de ces nouveaux formats, de ces nouveaux contenus qu'on produit. La question de leur diffusion est évidemment essentielle, parce qu'il faut ensuite arriver à ce qu'il y ait une paire d'yeux qui se pose dessus. J'avais une question pour Geoffrey, pour commencer. Donc vous faites le pari que le fait d'avoir un site, le fait d'avoir une homepage, une page d'accueil, selon vous, c'est fini ?
Je ne pense pas que c'est entièrement fini. Nous, de la manière dont on l'a regardé, c'est ok, si on débute notre média, il faut qu'on fasse en sorte qu'on aille là où les gens sont en train de consommer l'information. On n'a pas voulu prendre le chemin inverse de se dire, bah, écoute, on lance un site web, ok, il n'y a personne qui vient, bah, allons les chercher sur les réseaux sociaux. Nous, c'était à l'inverse, on va les chercher sur les réseaux sociaux et peut-être qu'un jour, on se dit, bah, on aimerait bien avoir notre site web parce que c'est sympa aussi d'avoir un espace qu'on peut customiser à la manière dont on a envie. Mais pour le moment, on est très content d'opérer uniquement sur les réseaux sociaux.
Et du côté des autres médias représentés, le site, la page d'accueil, reste quelque chose d'important ?
Ça reste quand même l'endroit où vous avez le pouvoir, hein, sur ce que vous voulez montrer, comment vous voulez le montrer, comment vous voulez le hiérarchiser. Moi, je pense que ça reste important. Après, on voit que, qu'on ne touche pas les mêmes publics, comme tu l'as dit, Jérémy. Mais on sent bien, hein, au fur et à mesure que Facebook grandit, et c'est aujourd'hui la plateforme la plus importante dans notre environnement, on va dire localisé, ce côté de l'Europe-là, qu'on décide absolument pas de tout sur Facebook, même de quasi rien. Donc, de pas garder une marge de manœuvre en tant que média, en tout cas en plus de services publics, ça me paraîtrait assez grave d'abandonner complètement ça.
Geoffrey, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, d'avoir une vidéo retirée ou d'avoir des problèmes avec la modération de Facebook ou d'Instagram ?
Donc pour le moment, on n'a pas du tout eu ce problème. C'est une contrainte et c'est aussi une question qu'on se pose beaucoup à l'interne, parce que c'est vrai, on est dépendant plus ou moins sur le bon vouloir de Facebook avec les deux plateformes qu'on opère. Mais pour le moment, ça se passe bien, on n'a eu aucune vidéo retirée et je pense que bientôt on risque d'avoir un site. Et puis aussi, on se dit qu'on est, je ne sais pas exactement comment le dire en français, mais platform agnostic. Ça veut dire que pour nous, la plateforme n'est pas très importante. Donc ce qui compte, c'est où est-ce que l'histoire va vivre le mieux. Donc que ce soit sur Snapchat, sur YouTube, sur un site internet, sur Facebook, sur Instagram. Un jour, on aimerait pouvoir se dire, traitons de ce sujet, et puis il faudrait qu'il aille sur Instagram, ou juste sur Snapchat, ou juste sur notre site web. Donc nous, c'est pour ça qu'on vise, c'est vraiment d'arriver un jour et se dire, mais on peut opérer sur toutes les plateformes, et on n'est pas restreint à une ou l'autre.
Et actuellement, il y a cette différenciation entre ce que vous publiez sur Instagram et ce que vous publiez sur Facebook ?
Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on a... Nous, traditionnellement, quand un média s'est dit qu'il faut qu'on aille sur les réseaux sociaux, ils ont ouvert tous les comptes des réseaux sociaux sur lesquels ils connaissaient, Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, et ils se sont dit, balançons notre contenu là-dessus. Nous, on sait très bien que c'est des mondes très, très différents.
Vous êtes arrivé plus tard aussi, hein, si je peux me permettre.
Et
il y a un an, il y avait une certaine maturité quand même.
C'est possible qu'on a pu regarder un peu ce qui s'est passé dans l'industrie avant de se lancer, c'est sûr. Et puis, on a vraiment dit, nous, on va opérer une plateforme à la fois. Et on va seulement passer sur une prochaine plateforme le moment où on se dit on a plus ou moins compris où on est en train d'opérer et est-ce qu'on est prêt à passer sur une autre plateforme. Donc on a commencé à Facebook, on vient juste de lancer Instagram et je pense que le jour où on se dira on est bien sur Instagram, on lancera YouTube.
Du côté de la RTS, Magali, c'est un peu le principe inverse. On a la taille et la possibilité d'arroser tous azimuts.
Oui, mais c'est fondamentalement la même stratégie aujourd'hui. C'est-à-dire que si on se lance sur une plateforme ou si on lance une émission sur une page ou un compte, il y a des critères pour lesquels, qu'il faut remplir pour pouvoir y aller, des lignes éditoriales, des ressources nécessaires, etc. Et tout. Donc on fait vraiment des choix aujourd'hui. Donc Instagram et Snapchat étant la plus récente, vous trouverez pour l'instant, à part le compte RTS, vous avez personne d'autre de la RTS sur Snapchat. Donc des personnes bien sûr, mais je veux dire des émissions, pardon, des émissions parce que il faut être en adéquation avec ce public là et que ça va peut-être sûrement venir, mais pour l'instant il y a pas grand monde qui pourrait y aller quoi.
Quelle fidélisation est-ce qu'on obtient avec ce type de contenu ? Est-ce que les marques arrivent à s'installer, enfin les marques de médias et puis les usagers, les lecteurs reviennent ? Ou est-ce qu'on est toujours très dépendant du fait de savoir si ce sujet-là va être plus viral qu'un autre ?
Non, mais nous, depuis qu'on a commencé sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, ça fait 2 ans qu'on y est sérieusement, parce qu'avant, on avait des pages dormantes.
Vous avez changé de rédacteur en chef.
Aussi, ouais. Exact, et de directeur, mais ça arrive souvent.
Qui pousse, en tout cas.
Mais là, ça fait 2 ans que c'est Laurent Keller, notre directeur, 2 ans et demi, ce qui est presque un record de longévité. On lui souhaite encore un grand avenir chez nous, parce qu'il fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a réveillé les réseaux sociaux chez nous. C'était une page Facebook, notamment complètement dormante, où on postait de temps en temps des photos floues d'émissions spéciales en extérieur avec des fautes d'orthographe. Et puis, donc déjà, il y a eu un travail, de nettoyage, quoi. Donc nous, on part vraiment de très, très loin, parce qu'on a dû déjà nettoyer tout ce qui a été fait faux, puis ensuite repartir sur des bases solides en mettant du contenu vidéo, parce qu'on a une télévision, donc une télévision qui met des photos, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, il faut mettre plutôt de la vidéo, promouvoir le contenu qu'on fait à l'antenne. Donc on a commencé à le faire, à le mettre il y a 2 ans sur Facebook, et puis en fait, après, le public a adhéré, et puis on voit, je parlais des audiences tout à l'heure, finalement, c'est les vieux qui regardent la télévision et les jeunes qui regardent les réseaux sociaux. Mais c'est déjà un sacré pas, parce qu'avant, les réseaux sociaux, comme on n'y était pas, on pouvait presque dire que les jeunes ne regardaient pas les Mans Bleus.
Mais quand on s'est parlé avant cette table ronde, vous me disiez que vous avez observé un report d'audience sur votre site du fait de votre activité sur les réseaux sociaux. Ça a quand même amené des gens sur le site de l'Aimant Bleu.
Oui, alors bon, le site de l'Aimant Bleu n'est pas lu par beaucoup de monde parce qu'on n'a pas de cellule web, on n'a pas vraiment de cellule info web qui fait que ça. Nous, on est vraiment très présents sur l'antenne. Notre priorité, c'est l'antenne et les réseaux sociaux. Donc on crée du contenu pour l'antenne, les réseaux sociaux, puis ensuite on met sur le site pour alimenter le site. Et puis les gens nous regardent à la limite en direct sur le site. Mais le report d'audience, oui, il se fait quand une vidéo marche bien sur Facebook. On met systématiquement un lien qui renvoie vers le site. Et puis on peut mesurer. Donc je sais pas, une vidéo d'Éric Zemmour, par exemple, a très bien marché. Le site a fait comme ça. Je sais pas si ça.
Il y a des trucs qui font marcher les vidéos. Ouais. Mais...
Alors, on y revient peut-être après, mais Magali, vous
non,
voulez
nous, réagir ? Le report sur le site, on le voit avec les Instant Articles. Donc c'est ces articles. Ah, c'est une astuce de Facebook pour intégrer directement les articles sur le site. Et là, clairement, vous voyez les stats augmenter de façon très importante quand ça vient, et on voit d'où ça vient, et ça vient de Facebook.
Mais ça veut pas dire que c'est un post sponsorisé et on n'a pas payé pour le mettre en avant.
Non, on paye quasi rien, nous.
On l'a rendu beaucoup plus facilement consultable sur mobile par le biais de Facebook.
Cet article, si vous appuyez, ça s'ouvre et c'est très joli. En gros, pour résumer la chose, ça ressemble un peu à ces vidéos que vous faites, que nous faisons, c'est-à-dire de les intégrer, que vous faites, qu'on intègre directement dans Facebook et qui partent toutes seules. C'est un peu le même principe pour les Instant Articles.
Et ça, du coup, ça amène des gens sur le site ?
Oui. Après, chez nous, on les considère vraiment comme des vecteurs différents, les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objectif. C'est difficile des fois à faire comprendre à des producteurs d'émissions, voire à des chefs. On ne va pas sur les réseaux sociaux pour faire venir les gens sur le site ou sur les vecteurs dits traditionnels. On propose d'autres choses ou la même chose, mais différemment, sur ces réseaux-là, parce que c'est des publics qu'on ne touche pas.
Ouais,
c'est vraiment ça. Donc c'est ça, des fois, qui est difficile à faire comprendre, qu'on ne va pas juste pousser une émission.
Mais les réseaux sociaux, c'est un petit peu le faire savoir. Enfin, c'est aussi ça. Ouais, il y a vraiment un but promotionnel pour la marque. Hein. Je pense qu'on parlera après du business
model. Puis de voir qu'on est moderne,
etc. Mais finalement, de pouvoir parler à plus de monde. Et puis, aujourd'hui, finalement, le commentaire sur le fait est devenu beaucoup plus important et beaucoup plus impactant que le fait en question. Et les réseaux sociaux, c'est clairement ça. C'est finalement de dire avant ou après, tiens, il y a ça qui va se passer, ou de mettre après un extrait, de dire, ah ben, on a eu une interview de tel, et puis on met un extrait, ou d'un coup, il dit quelque chose d'énorme. Donc, il y a clairement un côté un petit peu commentaire de ces réseaux sociaux, extrait, qui ensuite va peut-être pousser la curiosité des internautes à aller consulter la séquence en entier ou aller consulter le site internet. Ça en fait beaucoup.
Pour aller plus loin, et Magali faisait référence, est-ce que de manière à projeter la marque, il faut parfois être un peu putassier ? Est-ce qu'il ne vous oblige pas à répondre ?
Qu'est-ce que tu mets sous putassier ?
Produire du contenu dont on croirait moins à la valeur éditoriale, mais qui serait à même d'être viral et de porter plus loin, et ainsi de ramener des likes de gens qui ensuite verraient votre beau contenu bien sérieux.
Ça pourrait être une tendance, mais on ne le fait pas.
Geoffrey ?
Non, nous aussi, on s'est pas amusé à faire ça. On publie pas énormément de contenu, donc on fait en sorte que chaque fois qu'on publie un contenu, c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. Et c'est ça, c'est ce qui nous fait plaisir à nous. On a aucune contrainte autour de ça.
Puis les gens ne sont pas bêtes. Enfin, il faut arrêter de prendre les internautes pour des débiles, etc. Il faut leur proposer, faut proposer des choses qui font du sens, du contenu. Si tu parles de partage de petits chatons, ça peut effectivement marcher. Nous, on ne le fait pas. D'autres médias en Suisse romande le font. Mais c'est en lien avec leur ligne éditoriale. Moi, ça ne me choque pas non plus, plus que tant. Hein. Si l'illustré met des petites vidéos d'animaux qui sont gentils, eh ben, ils assument, et ils assument jusqu'au bout. Donc, ça ne me choque pas. Voilà.
Nous, on arrive à voir, finalement, avec le temps, on arrive à voir quels sont les sujets qui sont les plus porteurs et lesquels ne parlent pas du tout au public de Facebook. Donc, évidemment que des fois, il y a des sujets qu'on va mettre à l'antenne et qu'on ne va pas forcément relayer sur les réseaux sociaux parce qu'on a... Voilà, on n'a juste pas envie de se prendre un bide, mais on va remettre la fiche.
Bravo.
Ouais, c'est magnifique. Mais ce qu'on remarque aussi, tu parlais du côté putassier, Alors oui, le côté putassier, forcément, il va intéresser une masse de gens qui est assez considérable. Mais après, le côté aussi proximité, ce qu'on fait beaucoup, parce qu'on est un média local, le côté proximité, le côté portrait, le côté positif aussi, bonne nouvelle, d'être un petit peu dans ce contresens d'une information qui est peut-être un peu mainstream, qui est très globalisée, où on parle toujours des mêmes sur toutes les antennes. Nous, on a cette petite originalité qu'on parle finalement de ce qui se passe très, très proche des gens. Et on remarque des portraits, par exemple, d'artisans, des portraits d'un type qui est hyper connu dans sa commune ou quoi. Ça, c'est des sujets qui marchent à la fois énormément sur l'antenne et sur les réseaux sociaux. Et on voit vraiment qu'il y a un lien entre ce qui marche à l'antenne, ce qui marche sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est pareil.
Ouais, non, j'avais juste un petit point pour rester sur ce sujet. Je pense qu'on a tous vécu la même chose. C'est aussi qu'on crée des sujets et on n'est jamais sûr duquel va marcher. C'est pas du tout une science exacte. Nous, certains des sujets qui ont le mieux marché, c'est des sujets, quand on les a publiés, je me suis dit, ah, celui-là, je le sens pas trop.
Vous pouvez donner un exemple?
On a fait un sujet sur une technique de menuiserie japonaise qu'on trouvait absolument fascinante. Et puis on l'a publié, et puis moi j'ai dit à la personne qui l'a créé, je lui ai dit, écoute, à mon avis celle-là ça va pas marcher. Le lendemain je suis revenu, on était à 1 million de vues. Quelques heures plus tard ça continue à monter, et puis on a fini vers 9 millions de vues.
Donc ça est un ou deux ordres de grandeur de ce que vous avez d'habitude.
On fait pas à chaque fois 9 millions de vues, mais ça tourne pas mal.
Vous voulez expliquer qu'est-ce qui s'est passé? La communauté des amateurs de menuiserie est extrêmement puissante.
Japonaise.
Non, mais c'est vrai, très souvent, on regarde l'Internet et puis on se dit c'est un média de masse. Mais en fait, ce qu'on remarque avec l'Internet, c'est qu'au contraire, c'est un média de niche. Et qu'en fait, on arrive à trouver plein de petites niches qui sont intéressées par des choses communes, mais par contre, ils sont à d'autres bouts du monde. Et c'est l'Internet qui les ramène ensemble, et donc la menuiserie japonaise probablement intéresse des millions de personnes à travers le monde, très peu en Suisse, mais ça s'est propagé à travers le monde. Et un site qui s'appelle Lad Bible et puis d'autres ont tout de suite repris notre vidéo et l'ont republié.
Ouais, le côté niche, c'est intéressant parce que, en fait, on a affaire des fois à des publics de niche qui sont tellement torréfiés par leur passion qu'ils ont une communauté qui est très forte. On voit par exemple tout ce qui est le véganisme. Il suffit qu'on mette le mot vegan, j'ai l'impression que la vidéo elle marche 10 fois plus parce qu'il y a une communauté de vegans sur les réseaux sociaux qui est ultra puissante, qui est ultra active et puis qui partage en masse les contenus. Et puis des fois il y a des contenus où on se dit bon, ça peut intéresser le plus grand nombre, comme par exemple la politique. Mais
c'est aussi la manière de la rendre. Oui. Vous savez le faire avec ce que vous appelez les piaf, hein, c'est ça?
Oui, alors voilà. Ça, c'est. Ouais.
Bon, ça pourrait aussi passer à la télévision.
Oui, mais au final, les audiences, les piaf du conseil municipal, oui, ça marche bien, okay. Mais par rapport à d'autres choses, c'est pas ce qui marche le plus. Quoi.
Mais c'est aussi la manière de la rendre. Si vous suivez des médias comme en France, Combini, des choses comme ça, ils ont interviewé François Hollande, ils ont fait une longue vidéo avec ça, et ça a cartonné absolument parce que le ton était différent, parce que la forme était différente, parce qu'on n'était pas dans un format type infrarouge ou bien forum ou bien d'autres émissions en lien avec la politique, et que le format s'est adapté en fait complètement à la plateforme. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous on ressent la même chose que vous ressentez par rapport au local, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le local ça fonctionne à fond parce que c'est quelque chose qui a été aussi complètement perdu par les médias avec tous les regroupements des titres, 24 heures qui n'a plus sa page Vevey ou j'en sais rien. Et ben pourtant les gens continuent à habiter à Vevey, à avoir envie des informations à ce sujet-là. Donc nous, une des vidéos nouveaux qui a le mieux fonctionné, c'est à la Chaux-de-Fonds, une coiffeuse qui coupait les cheveux pour je sais pas, tu l'avais vu, pour la donner à des femmes qui ont plus de cheveux à cause du cancer, et on nous demande encore l'adresse de cette coiffeuse. Enfin, il y a vraiment un truc parce que c'est la proximité qui fonctionne. C'est pas une info anecdotique, hein, c'est juste que tout à coup les gens se sont aussi sentis touchés, que c'était plutôt bien filmé, bien mis en onde, bien mis en forme, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, la politique américaine fonctionne aussi très bien, il y a beaucoup d'intérêt, mais on sait pourquoi, parce que c'est très... Voilà, la politique française aussi. La politique suisse, c'est vrai, un peu moins bien.
C'est un petit peu moins sexy en ce moment.
Ouais.
Mais Geoffrey, vous dites que vous exploitez ces publics de niche qui se révèlent, alors parfois au hasard d'une publication. Néanmoins, vous faites un résumé de l'actualité, donc toujours autour de la minute, qui vous raconte ce qui s'est passé dans la semaine, avec un sujet par jour dans lequel il y a énormément d'international.
Exactement. Donc nous, le local, on en fait beaucoup moins que d'autres personnes. Nous, on a vraiment envie de traiter la plupart de nos sujets à l'international. C'est une vocation personnelle qu'on avait envie. Nous, on est parti du principe que on est une des premières générations complètement globalisé, qui est arrivé dans un monde où on était connecté depuis un âge très jeune. Et puis on se dit qu'aujourd'hui, une personne de notre âge s'intéresse tout autant à ce qui se passe en Inde que ce qui se passe dans le village d'à côté. Et nous, on a envie de traiter d'énormément de sujets internationaux, mais avec un ton jeune et puis un ton de la région.
Mais c'est qui va vous donner de l'argent pour faire ça ?
Donc nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un marché publicitaire qui opère d'une manière différente aussi, qui est très local dans leur manière de fonctionner. Mais rien ne nous empêche d'avoir des audiences suisses et arriver à monétiser des audiences suisses, et avoir des audiences françaises et arriver à monétiser des audiences françaises aussi.
Donc le fait que vos vidéos, parce que comme la plupart de ces contenus, c'est sous-titré, en fait, je ne sais pas, en tout cas, il y a souvent une musique d'accompagnement, mais il n'y a pas énormément de déclarations, il n'y a pas tellement de paroles. Mais donc le fait que ces vidéos soient sous-titrées et sous-titrées en français, les permettent en tout cas de les exporter dans la francophonie.
Exactement.
Ce que vous observez ?
Ce qu'on observe est énormément, notre public est majoritairement suisse et français. Et puis on remarque que pour nous, on ne le voit pas du tout comme une contrainte, mais plutôt un truc extraordinaire que notre contenu arrive à voyager aux trois coins du monde et pas rester seulement en Suisse. Pour nous, on trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut juste, après, d'un côté, arriver à monétiser aussi des audiences par région, et ce qu'on va commencer à faire bientôt.
Dernier chapitre, avant qu'on dédie un moment aux questions, on aura entre un quart d'heure et 20 minutes à la fin pour ça. Quelles structures permettent de porter ces innovations en termes de contenu ou en termes de format ? Est-ce que justement nos structures de médias sont prêtes à laisser exister ce type de contenu et de travail ? Jérémy, vous disiez que chez vous, il n'y a pas de cellule numérique, il n'y a pas un chef avec la casquette et des 0 et des 1.
En fait, la cellule numérique, elle est vraiment fondue dans la rédaction. Et je pense que ça, c'est assez original. Et je ne sais pas si d'autres médias vraiment le font. Mais nous, on était obligés de le faire parce que si on voulait passer ce cap du numérique, on n'a pas d'argent. Enfin, oui, on a un budget, mais on n'a pas vraiment d'argent pour créer une cellule de gens qui vont faire que du web toute la journée. Puis en plus, les recettes, elles ne se trouvent pas là pour nous. On a dit que c'est impossible de monétiser. Donc on s'est dit, pour être présent quand même, on doit finalement délivrer des formations aux journalistes et leur apprendre à comment publier sur les réseaux sociaux, comment monter des vidéos pour les réseaux sociaux. Puis on a développé avec nos graphistes des modèles vraiment très simples à utiliser pour que les journalistes puissent faire ces fameuses vidéos carrées avec sous-titres, avec des animations, etc., qui sont très léchées, que Nouveau fait par exemple avec beaucoup de talent, Kappa aussi. Alors nous, on a trouvé un peu un juste milieu avec un template, finalement un modèle qui permet d'avoir quelque chose de visuellement pas trop mal, mais que ce soit pas non plus trop compliqué, que ça ne nécessite pas 12 graphistes dessus. Et ce qui est assez inédit, c'est qu'on maintenant on a des journalistes d'aujourd'hui 50 ans qui commencent à faire du Facebook, qui font des vidéos pour Facebook, et on a vraiment réussi à faire fondre finalement cette fibre numérique au sein même de la rédaction. Et nous, notre rédaction, elle est composée d'une douzaine de journalistes, donc on est en quelque sorte une douzaine de community managers.
Magali, vous vouliez réagir, donc dans un contexte très différent et avec plus de journalistes.
Chez nous, c'est le principal défi, c'est-à-dire De motiver, de convaincre, de séduire les journalistes, les animateurs du bien fondé de s'y rendre de manière professionnelle, parce que amateur, tout le monde peut le faire. Mais c'est vraiment ça. Donc on donne aussi pas mal de formations. On a passé une étape là, honnêtement, sur l'intérêt. On est plutôt submergé d'intérêt maintenant, donc on est un peu devenu un peu petit pour absorber tout ça, mais je trouve que, et c'est pas nécessairement des histoires de génération, hein, ouais, sur lesquelles sont le plus intéressés à comprendre. Par contre, ce qui me fait toujours souci, c'est que je trouve qu'il y a quand même encore pas mal de gens et de journalistes qui n'ont pas conscience du monde dans lequel les médias baignent en ce moment, depuis, allez, on va dire 5-6 ans, et de cette mutation qui a eu lieu. Et en Suisse, on n'est pas tellement réveillé là-dessus. Donc moi, je trouve toujours très bien ce que vous avez fait, parce que vous donnez aussi plein de pistes avec des petits budgets de ce qu'on peut faire, et c'est des bons modèles pour nous, Kappa ou bien des autres choses, mais il n'y a pas... On n'est pas dans un monde de compétition et surtout de concurrence, donc ça ne nous pousse pas vraiment à sortir les pouces, quoi. Donc on va plutôt regarder à la fois ce qui se fait dans le monde anglophone et dans le monde francophone proche pour se dire on va atteindre ça.
Geoffrey, vous êtes dans la situation inverse, on imagine.
Ouais, donc nous, on ne peut pas trop commenter sur ce qui se passe dans les structures existantes parce qu'on n'y est pas. Par contre, on peut dire que ce qui nous a poussé à nous lancer, c'est le manque d'activité dans les structures existantes pour recréer un peu les médias au goût du jour. Nous, c'est parti d'un constat. Donc, plusieurs d'entre nous, de notre équipe, ont étudié aux États-Unis. Et puis là-bas, quand on étudiait, on avait des médias qui étaient dédiés à notre génération, qui comprenaient les réseaux sociaux, qui nous apportaient l'information de la manière dont on voulait. Et nous, quand on était ici, on n'avait rien de tout ça. Et c'est pour ça que 4 d'entre nous, l'été dernier, on s'est dit, tu sais quoi, on va monter notre média à nous-mêmes sur les réseaux sociaux, on va raconter les histoires de la manière dont on a envie de les raconter. Donc c'est plutôt le manque d'infrastructures et le manque d'envie des médias actuels qui nous a poussé à créer le nôtre.
Je vais vous demander de parler un petit peu pour les autres, encore que peut-être que pour les membres bleus, la question se pose, mais on voit bien qu'on a d'un côté l'esprit un peu start-up qui peut se permettre d'essayer et vraiment de percer dans une direction et qui, vous le disiez, Geoffrey, choisit vraiment les champs sur lesquels il décide de bosser. Et puis de l'autre côté, des structures établies et plus grosses qui peuvent se permettre d'investir plusieurs canaux à la fois. Est-ce que, par rapport à ces deux pôles-là, vous ne voyez pas une grosse difficulté pour les structures de moyenne taille qui ont à la fois l'envie de régater un peu partout et pas forcément les moyens de faire les bons choix? Mais là, vous allez parler pour... Enfin, peut-être que ça touche les membres bleus, mais...
Bah nous, on est clairement dans cette situation, parce qu'on est clairement dans une structure de moyenne taille, avec finalement cette envie, cette fougue un petit peu éternelle, même si notre média a 20 ans, on reste un média qui est très jeune. La moyenne d'âge des employés de notre chaîne, c'est 25 ans.
Vous êtes combien, juste?
On est une quarantaine. Et puis de gens à l'interne, on est une trentaine. Donc il y a une trentaine de gens qui travaillent chez nous, puis une dizaine de gens qui sont externes. Mais c'est vrai que c'est ultra compliqué parce que nous, finalement, on est un petit peu à flux tendu. Donc on a des échéances tous les jours, on a à rendre un journal, on a des émissions à faire, on a un public qui attend quand même qu'on soit présent. Et d'un autre côté, ces nouveaux canaux qui s'ouvrent, dans lesquels on doit s'engouffrer, et on est obligé de trouver des solutions qui puissent être efficaces sans trop de moyens, parce qu'on n'a vraiment pas les moyens d'investir là-dedans, surtout que, et ça c'est vraiment le gros problème, c'est que comment fonctionner financièrement juste sur les réseaux sociaux. Alors, Geoffrey, tu parlais du sponsoring, mais bon, pour faire tourner une chaîne de 40 personnes, il faut quand même y aller. En termes de sponsoring, c'est 4 millions de budget. Est-ce qu'on arrive à faire rentrer 4 millions de sponsoring par an juste avec du Facebook? Et ça, clairement, je me pose la question.
Geoffrey, vous, le sponsored content, donc le fait de faire un article pour le compte d'un client, finalement, c'est quelque chose que vous seriez prêt à faire?
Donc nous, on est prêt à explorer énormément différentes canaux pour générer de l'argent. Je pense que personne d'entre nous sait exactement à quoi va ressembler le futur d'un point de vue du business model. Donc nous, on est en phase de test. On remarque que le sponsored content, quand il est très bien fait, a très bien marché aux États-Unis, mais il doit être bien fait. Donc nous, on est en train de voir, et c'est ça qu'on explore, c'est pour que ça marche, il faut très bien le faire, et nous, on va explorer ça, mais on va en explorer aussi énormément d'autres. Et on est continuellement en phase de test. On a la chance de ne pas être une équipe de 40 ou pas être une équipe de je ne sais pas combien vous êtes à l'RTS. Mais on est une petite équipe et donc on arrive à bouger extrêmement rapidement si quelque chose ne marche pas.
Dernière question avant de passer aux questions du public. Est-ce que chacun, brièvement, vous pourriez citer une initiative, un résultat, un contenu, quelque chose que vous avez vu chez les autres où vous vous êtes dit, tiens, enfin, dans le cadre de ces nouveaux formats, nouveaux contenus, tiens, ça... je voudrais faire et j'ai un énorme respect pour cette production. Petit respect, Magali sourit.
Oui, ouais, parce qu'on a essayé de le copier. C'était un format de la BBC, en fait, que nous, on a transformé en dans le mobile 2, dans le smartphone 2. Et en fait, c'est un format très immersif qui consiste à recevoir, déjà ça utilise tout l'écran de ton smartphone, et puis tu utilises vraiment, tu fais comme si tu recevais un appel de quelqu'un qui est quelqu'un qui trafique des éléphants, je sais plus trop ce que c'était en Afrique. Tu dois prendre l'appel, tu fais rien, c'est une vidéo qui tourne et tu utilises tous les codes qui sont sur ton smartphone, des conversations WhatsApp, du FaceUp, FaceTime, pardon, d'aller sur Instagram, de répondre, etc. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose de nouveau, qu'on a pas mal vu du coup. Il y a aussi Nathalie Ricli qui l'a récupéré, ça m'a fait rire. Et c'est des choses, en fait, d'utiliser beaucoup plus complètement l'appareil qui est le mobile, qui nous sert aujourd'hui à peu près à tout, et d'essayer de penser mobile jusqu'au bout. Je trouvais intéressant, on a essayé d'en faire quelque chose dont on est plus ou moins content, qui n'a absolument pas fait des millions de vues, mais on est assez content du résultat, à améliorer. Mais voilà, ça c'est parce qu'il y avait du contenu, il y avait du sens, ça durait assez longtemps, ça amenait une autre dimension, c'était du reportage, et puis ça renvoyait aussi sur un autre article si on voulait aller voir. Voilà.
À travers une interface.
Exactement.
Qui respire l'intimité. Enfin,
c'est votre poche, quoi.
Donc, c'est vraiment important.
Ouais,
c'est enfin, intéressant. Important, efficace.
Si jamais BBC, Chimp, je sais pas quoi.
Geoffrey, inspiration.
Donc moi, il y en a deux sur lesquels j'aimerais commenter. Moi, il y a un truc qui, à mon avis, va nous fasciner dans quelques années. Je peux emprunter votre téléphone. Il y a quelque chose, à mon avis, qui va nous fasciner dans quelques années. On va regarder en arrière, on va faire. C'est vrai qu'on était un peu old school. Aujourd'hui, on filme tout entièrement comme ça. Tout est filmé comme ça. Mais la chose est qu'aujourd'hui, on consomme la plupart de notre contenu sur un téléphone mobile et on ne le tient pas comme ça quand on veut regarder quelque chose. On le tient comme ça. Et il y a très, 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 très peu de gens qui investissent dans la vidéo verticale. Et à mon avis, dans quelques années, on va se dire, mais bien sûr, c'est entièrement logique. On tient le téléphone droit, il faut qu'on regarde la vidéo droit. Par contre, ça demande des compétences différentes, ça demande beaucoup d'expérimentation, mais à mon avis, ça va être assez, assez gros. Et le deuxième, c'est je suis un grand fan de Vice Media, qui est une structure américaine, qui a pris le pari de très bien marcher sur le digital et se dire, bah, nous, on va lancer une chaîne télé, et on va lancer une chaîne télé pas qu'aux États-Unis, mais partout en Europe aussi, et on va convaincre les jeunes de revenir regarder la télé. Et ça, je trouve que c'est un pari assez osé, mais assez cool.
Sur la vidéo verticale, c'est drôle, parce que nous, on avait un technicien qui s'était un petit peu moqué de nous, justement, quand on parlait de ça. On se disait, mais voilà, il faut passer au format carré, parce que c'est ce qui rentre mieux dans les écrans quand les gens regardent sur Facebook. Le format carré, ça épouse mieux le fil d'actualité. Et du coup, les publications, elles sont beaucoup plus grosses, et il y a beaucoup plus d'impact. Mais il dit, mais c'est pas nouveau, il y avait le 4 tiers il y a 15 ans. Donc au final, on a peut-être étendu les vidéos, puis là on revient à un format plus 4 tiers. Et aujourd'hui, c'est presque plus facile d'utiliser des images d'archives en 4 tiers pour faire justement ce type de publication carrée, parce qu'elles sont quasi carrées. Et puis sur une réussite, alors oui, ben, voilà, c'est clairement ce format carré des vidéos qu'on a tout pompé sur Channel 4 News. Donc voilà.
Magali.
Comme tout le monde. Non, je voulais juste dire que le vertical, j'y crois aussi beaucoup, et qu'on s'est beaucoup gossé en fait de Snapchat et gna gna gna, et que ça marchait pas et blablabla. Et en gros, il y a beaucoup de choses qui ont été pompées de Snapchat, dont le vertical, dont les filtres, ouais, dont le salopage d'image, pour dire les choses comme ça. Enfin, et peut-être que Snapchat ça va pas durer, quoique je pense qu'il y a encore un bel avenir pour Snapchat. Voilà. Mais il y a toutes les choses qu'a inventé Snapchat et que Instagram Stories, c'est juste la copie parfaite, ont pu lécher. Et puis ce que vous avez vu, les stories sur Facebook, c'est pareil aussi. Donc il y a vraiment, moi je crois aussi beaucoup en le format. Voilà.
Merci beaucoup de ces différents partages. Maintenant la parole est à la salle. Je suis sûr que tout ça a suscité beaucoup de questions. Par contre, on vous voit assez mal, mais je vois que là-bas, est-ce qu'il y a des micros qui circulent? Donc, alors dites-le et puis je leur dirai pour le podcast. Alors la question juste pour ceux qui nous écoutent peut-être par le biais de ce micro, que j'essaye de résumer, est-ce que les formats courts, textés de Kapow, empêchent pas quelque part d'atteindre une certaine profondeur dans la qualité de ce qui est décrit?
Donc je te rassure, pour nous le fond est beaucoup plus important que le format. Nous ce qu'on a, notre observation qu'on a fait quand on a commencé, c'est qu'on a une vision à 5 ans. Et aujourd'hui, on est jugé sur ce qu'on est après 6 mois. Très bien, on l'accepte parce qu'on sait là où on veut aller. Et l'investissement dans du contenu de fond long format original est quelque chose dans lequel on commence à rentrer de plus en plus. Et à mon avis, dans 2 ans, on regardera notre page Facebook et du contenu de 60 secondes, comme tu viens de décrire, il y en aura peut-être 5 à 10%.
Aussi parce que l'algorithme est en train de changer et va pousser aussi le contenu plus long. Donc je pense qu'on va tous pouvoir en profiter.
Donc la manière dont Facebook choisit de
pousser du
montrer
contenu plutôt que de l'autre,
un post ou pas. qui aura une préférence accrue pour des formats plus longs.
Logiquement.
Kappa, est-ce qu'elle a une rédaction avec des fonctionnements classiques, comme des briefings quotidiens et des discussions, mais surtout la question portait sur l'identité, disons, des collaborateurs. Est-ce que vous avez des gens à l'interne ou est-ce qu'il y a un grand recours à des personnes en freelance?
Donc nous, on a pas du tout réinventé la roue de ce côté-là. On a un comité de rédaction, on se voit tous les jours pour discuter des sujets, donc on a des gens qui nous fournissent du contenu de l'étranger et autres, mais toutes les histoires sont choisies par notre comité de rédaction de 4 personnes à l'interne. Toutes les histoires sont montées à l'interne. Et avant d'appuyer sur le bouton publish, c'est nous, chacun d'entre nous, qui nous mettons autour de l'écran, regardons la vidéo une dernière fois et l'envoyons sur les réseaux.
Donc combien pour faire capot à l'interne?
On est 6.
Et une nouvelle question derrière Laure.
Oui, je voulais poser la question. Vous avez dit que la politique suisse n'est pas du tout sexy, qu'on préfère regarder la politique française ou la politique américaine. Moi, je trouve que ce n'est pas le cas, mais apparemment, il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est le cas. En tout cas, sur Facebook, sur mon fil d'actu, je ne vois pas tellement de choses de politique suisse. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme solution? Quelles idées? Quel format? Peut-être de décalage, etc. aussi.
Il y a un petit format à la RTS qui s'appelle l'instant politique qui passe aussi en broadcast, donc c'est pas non plus complètement pour les réseaux sociaux, mais c'est une autre manière en fait d'aller interviewer les gens. C'est Alain Rébété qui fait ça, qui est très à l'aise avec, voilà. Donc ça, c'est des petits formats comme ça. Nouveau, c'est aussi ils font des explainers, donc c'est avec les petits dessins, hein. Donc ça, c'est aussi une autre manière de réinventer le rapport à la politique suisse. Concrètement, moi je pense qu'il faut aller voir les gens, tout simplement, quoi. C'est cette manière là c'est aller voir les gens à la fois qui font la politique et qui la vivent et qui les militants, etc. Et c'est ça qui va recréer du lien et permettre peut-être de réintéresser ou d'intéresser un certain public à ça. Il n'y a pas de grosse recette, je pense. Après, on peut passer par des formats ou des choses comme ça. C'est ce que va faire Nouveau aussi.
La question, c'est aussi la politique institutionnelle et pas forcément une politique plus sociétale comme on le voit peut-être plus sur les réseaux sociaux.
Mais je pense qu'il y a un petit complexe en Suisse, c'est qu'on n'ose pas faire comme en France et aux États-Unis, à starifier un petit peu nos élus. Et c'est vrai que nous, à Genève, bon, on a une culture politique qui est un peu différente, peut-être.
C'est bon, vous les avez, vous.
Mais nous, on a, finalement, moi, j'ai décidé dans mon émission de starifier des gens qui, finalement, ont un mandat ultra-local, conseillers municipaux. Et puis, donc, régulièrement, on rappelle leur nom, on les met, entre guillemets, en valeur. Et puis, finalement, ça crée aussi un intérêt de dire que telle personne est importante et telle personne fait ci. Ça crée quand même un intérêt. Et puis, après, pour les réseaux sociaux politiques suisses, nous, systématiquement, quand on a un invité politique, on va extraire une séquence de l'interview, 30 secondes par exemple, et puis on va le mettre, ensuite on va le sous-titrer pour les réseaux sociaux. Puis ça, on remarque que ça marche très bien, que les gens sont intéressés, même à des discours politiques, et souvent ça crée aussi le débat, donc c'est intéressant de voir que des fois des personnalités peuvent créer le débat. Et puis troisième point, c'est clair qu'il y a des choses à faire, on doit investir dans une nouvelle approche. En France, par exemple, pour la présidentielle, il y avait Topito qui faisait ses interviews présidentielles, qui étaient assez chouettes. Et je pense qu'on pourrait se permettre d'être un peu plus fun aussi dans le traitement de la politique, aller chercher aussi un peu plus l'humain derrière le politicien.
Une double question à vous poser, je vais essayer de la faire courte. La première, est-ce que c'est pas un petit peu presque dommage d'être dépendant de Facebook, notamment sur les algorithmes? On parlait de formats courts jusqu'au moment où Facebook autorise des algorithmes à faire des formats un petit peu plus longs et qui soient publiés sur les flux d'actualité. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on gère la hiérarchisation de l'information? Sur les membres bleus, c'est un peu évident, on a beaucoup parlé de portraits. Mais par exemple, sur les différents comptes de la RTS ou sur Kappao, est-ce que parce que le reportage sur la menuiserie japonaise cartonne, on va aller plus là-dedans ou comment on gère ça, quoi, tout simplement?
Volontiers rebondir sur la deuxième question en premier. Donc, on a eu une vidéo sur la menuiserie japonaise qui a très bien marché et on n'a plus jamais fait une vidéo qui touche même à l'architecture ou quoi que ce soit autour de ça. Tout simplement parce que pour nous, c'était un challenge. On s'est dit, OK, cette vidéo dans cette catégorie a bien marché, mais on a envie de prouver qu'une vidéo avec plus de fond peut aussi faire 9 millions de vues. Donc, on n'a plus jamais touché à ce genre de sujet.
Vous n'avez plus jamais fait 9 millions.
Et on n'a plus jamais fait 9 millions.
Et du côté de la RTS, la hiérarchisation
Juste rappelle-moi la première question. Oui. Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand même de garder ses propres plateformes. Le truc, c'est qu'il faut qu'on aille là où les gens sont. Et les gens sont sur Facebook. Donc ça, honnêtement, et puis après d'aller chercher des nouveaux publics sur les réseaux qui sont plus jeunes, Instagram, Snapchat, etc. Twitter, on n'en a pas parlé, mais c'est pas plus mal. Et puis, sur la deuxième, nous, on pousse du contenu dont on sait que fondamentalement, ça ne va pas fonctionner. Mais on le pousse parce que c'est des émissions qu'on a à cœur, c'est des sujets qui sont importants dans la vie politique publique suisse. Ce sera des vidéos ou ce sera des sujets qui feront au max 2 000, 3 000 vues, peu importe. Ça fait partie de notre mandat de continuer à le faire, et on va continuer à le faire parce qu'on a aussi le nombre de présences pour le faire, et on n'a pas qu'une seule présence, contrairement à vous. Enfin, c'est le bien et c'est moins bien, parce que du coup, c'est compliqué de gérer une trentaine de comptes Facebook. Donc, par rapport à ça. Mais ça restera le mandat de continuer à pousser du contenu plus, qu'est-ce qu'on va dire, difficile. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne vous vois pas du tout au fond, mais je n'ai pas l'impression, non? C'est bon? Bah, merci à tous de votre écoute. Merci à ces valeureux merci panélistes beaucoup. Que vous pouvez applaudir. Et Laure va tout de suite vous dire à quelle heure est la prochaine table ronde, puisqu'on a de l'avance.
Bravo. Je propose qu'on reprenne à 9h05 pour un débat jusqu'à 10h05. En sachant qu'on a un peu des consignes de bruit pour la suite, en fait, il faudra revenir vous regrouper par ici. Il y aura un peu de musique par là, mais les voisins toujours de l'immeuble rose en face veulent qu'à partir de 22h, ce soit plus calme. Donc voilà. Continuez à fumer dans le fumoir, à mettre des sous dans les boîtes et tout ira bien.
Et juste pour dire que la prochaine table ronde, c'est sur le financement des journaux. Et puis, il y a 3 stands d'Impressum, de Syndicom et de Médias pour tous avec des publications qui parlent justement de ça. Donc, si vous voulez déjà lire un petit peu ou trouver de la doc, allez au stand là-bas. Merci.
Et à la page 17, on a un article qui analyse tout ça. Merci à tous. Merci.